Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, on se retrouve de 15h30 à 16h30 en live, émission que vous retrouverez en diffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois peu connu peut-être par nos auditeurs et auditrices, mais un sujet si profondément humain, la fête de la Sainte Dipna, célébrée chaque année le 15 mai. Et comme fil conducteur tout au long de l'émission, le thème de l'écoute, sans oublier votre incontournable chronique, les rencontres de Marie-Claude. Nous aurons des invités, Marie, l'infirmière en psychiatrie qui fait également ses débuts comme co et future animatrice à Pavillon Nomade. Bonjour Marine.
Bonjour Jimmy, comment ça va ?
Bien, merci, ça fait plaisir de vous retrouver au centre du parc de Malévo. On aura aussi la présence de Gabriel Binder qui est responsable du MQC qui viendra échanger autour de cette fameuse Sainte Dipna. Et on recevra aussi le service d'aumônerie, Christophe Pont, responsable du service, et Christelle Savary, collaboratrice, à qui nous allons donner la parole aujourd'hui, qui accompagne, soutient, vive et où traverse cette réalité au quotidien, soignants, proches, patients, professionnels. Vous pouvez nous rejoindre en face de la cafétéria au plein cœur de ce joli parc de l'hôpital. Intermède musical, c'est parti. Cubain à travers ces arbres, ces fleurs, ces feuilles. Et autour de la table, on accueille Asmeret, on accueille Cassandra et Pierre qui sont autour pour animer cette émission, pour co-animer, pour poser des questions, échanger. Et bonjour Marine.
Bonjour Jimmy.
Marine, vous avez participé ce matin activement à la messe. Comment avez-vous vécu ce moment et surtout, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cet événement ?
Alors, j'ai très bien vécu. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de participer à la messe. Et puis, cette fois, je me suis un peu plus investie avec plus de chants. Et puis aussi, j'ai amené quelques poésies mystiques de très vieux poètes du XIIIe siècle en Perse. Et j'étais très contente de pouvoir réciter ces poèmes. Et puis, d'amener aussi un peu de poésie à travers l'élément du feu et l'élément de l'eau, qui sont des très beaux éléments, je trouve. Et puis, j'ai trouvé chouette de pouvoir partager ça avec le service d'aumônerie et puis d'avoir cette espèce de mélange entre une liturgie classique avec un prêtre qui officie depuis, je pense, bientôt 50 ans. Et puis, des chants qui sont un peu plus, qui viennent d'ailleurs, avec aussi un autre message peut-être différent de spiritualité qui touche différemment les gens. Et j'aime bien ces mélanges, en fait. J'aime bien cette tolérance qu'on peut amener entre les différentes croyances.
Merci déjà pour ce fabuleux début d'émission. Je l'ai dit en préambule, vous êtes infirmière ici à l'hôpital depuis quel nombre d'années maintenant vous êtes à
la fin de deux ans ? Ça fait un an et demi que je suis là maintenant. Ouais. Ouais.
Mm-hmm. Alors, une de mes premières et deuxième questions, c'est en tant que soignante, quel rôle la spiritualité peut-elle jouer dans le parcours des soins psychiatriques ?
Oui, en fait, c'est vrai qu'au début, je me suis posé cette question parce que je sortais d'un CAS universitaire en accompagnement spirituel avant d'arriver ici et je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique ce que je viens d'apprendre ? Et c'était assez flou pour moi. Et je me suis vite aperçue qu'en psychiatrie, c'était très important parce que déjà, dans ma vision de la spiritualité, on part en fait de ce que la personne a comme sens à son existence. Donc, c'est très large. Hein. C'est vraiment qu'est-ce qui fait sens dans ma vie ? Quelles sont mes ressources ? Quelles sont les problématiques que je traverse ? Et comment est-ce que ces ressources peuvent m'amener à ramener un peu de sens dans ce que je traverse ? Quelles sont mes valeurs ? Comment est-ce qu'elles peuvent m'aider ? Quelle est mon identité profonde ? Qu'est-ce qui me définit vraiment ? Et quel est mon rapport à une transcendance ? Mais la transcendance, on l'entend pour un croyant. Ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi mon rapport à la forêt, mon rapport à l'art. Mon rapport à la musique, etc. Donc il y a plein de manières différentes de vivre sa spiritualité. Et en fait, je me suis aperçue qu'en psychiatrie, c'était très important. Beaucoup de patients pratiquent de l'art, beaucoup de patients ont aussi des croyances spirituelles qui sont fortes et qui leur amènent beaucoup de ressources en fait, dans leur parcours de rétablissement. En fait.
Merci. Alors, j'aimerais me retourner autour de nos participants autour de la table. Quand vous entendez Marine exprimer un petit peu son point de vue, comment vous réagissez et qu'est-ce que vous avez envie de partager, Cassandre ?
Oui, volontiers. Je suis touchée par les mots de Marine et ils font écho en tout cas à mon histoire. En ce qui me concerne, la guérison spirituelle fait partie intégrante de mes guérisons thérapeutiques, dans le sens où je pense que l'élan de vie que j'ai et mes désirs très forts de guérison sont aussi portés par tout simplement ma relation au vivant, ma relation à la vie. Et donc je pense qu'effectivement mes croyances ont une influence positive dans mon parcours thérapeutique parce que ça permet d'aborder des dimensions qui, dans mon expérience, ne sont pas forcément naturellement abordées en psychiatrie, mais qui pour moi sont des éléments déterminants dans la guérison quand on touche aux questions de gratitude, de miséricorde. Alors, je suis moi-même pas catholique, mais je pense que c'est des concepts qui rejoignent toutes les spiritualités ou religions. Et dans mon parcours, je n'ai que pu constater que vraiment se cultiver la gratitude et le pardon étaient des choses qui soutenaient et qui étaient presque indispensables à une guérison, pleine, on peut dire. Voilà.
Merci pour votre partage. Alors, je ne sais pas si, Pierre, vous avez un prénom qui est quand même pas... tout un symbole. Hein. Pierre, c'est Marine, non ? Pierre, on a... oui. Pierre, on entend souvent dans la religion, ce fameux Pierre. Mm-hmm. Vous, vos points de vue avec tous ces échanges qu'on vient d'avoir sur la question si la spiritualité peut être une ressource dans le rétablissement psychique, si oui, comme on a pu l'entendre, vous qui partagez peut-être à travers vos connaissances, vos amitiés, votre famille, vous vous situez comment ? Alors, on vous laisse quelques temps de réflexion, il n'y a pas de souci. Hein.
Alors oui, c'est vrai que donc tout d'abord, je pense qu'il est important, c'est de respecter la liberté de conscience de chacun. Donc c'est vrai qu'on a tous un parcours différent et on a tous chacun des raisons de croire ou de ne pas y croire. Et puis d'accueillir en fait ce que l'autre vit tel qu'il est actuellement et où il en est dans son chemin. Et puis je trouve que c'est important d'avoir des personnes qui sont là disponible pour être à l'écoute de chacun là où il en est, sans se sentir jugé s'il n'est pas au même stade du chemin que d'autres personnes, par exemple. Et puis oui, moi-même, je suis très croyant, je crois fort en Jésus-Christ qui a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Pour moi, qui est la plus grande preuve d'amour, c'est d'aller jusqu'à donner sa vie. Et puis après, évidemment que c'est personnellement ce qui m'aide à aller de l'avant et puis à écouter les autres dans chacune de leur histoire ou leur souffrance. Et oui.
Merci pour votre échange très touchant. Cassandre, on vous écoute et on donnera la parole après à Gabrielle.
Je me permets de rebondir et de dire merci justement à Pierre, parce que je trouve très joli qu'on puisse être assis l'un à côté de l'autre, visiblement, en tout cas audiblement, portés par les mêmes valeurs, sans avoir la même source d'inspiration, mais finalement ce seront les mêmes valeurs qui nous guident et je trouve ça assez joli.
Merci. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous voir.
Moi de même.
Vous aviez envie de rebondir sur l'échange.
Le spirituel, c'est les choses de l'esprit. Et il y a un truc qui est rigolo. Quand on dit les mots d'esprit, c'est l'humour. Les mots d'esprit. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a de l'esprit. Alors, on a souvent voulu découper l'humain en tranches. Puis on a dit, il y a le corps, il y a l'âme. Après, certains disent « Geist », les Allemands, « la volonté ». L'autre, les Allemands disent aussi « die Seele ». Les Seele, c'est une espèce de trame, une espèce de trame comme ça. Et le spirituel, c'est l'idée que, d'un côté un peu immatériel, les modes d'esprit, l'humour. Et ces choses qu'on a toujours voulu développer ici, dans notre approche spirituelle, ça n'a rien à voir avec le spirituel de la religion, ça a à voir avec la capacité de se réunir sur quelque chose qui peut être drôle, qui peut être sympa, mais qui n'est pas de l'ordre du psychisme. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé, on appelait ça printemps de l'âme. Parce que j'aimais bien ce terme.
Très début. Joli d'ailleurs.
Avant Saint-Dipna, c'était le printemps de l'âme. On a fait ça pendant 10 ans. Voilà. Et ce 15 mai, c'est l'occasion de réfléchir au côté spirituel de notre présence dans ce monde. Ou de la présence de l'hôpital.
Bah, on aura l'occasion de revenir sur cette fameuse Saint-Dipna tout à l'heure dans nos échanges. Alors, Marine, on a quelques années d'écart et aussi dans notre formation, on est tous les deux infirmiers et de sur quoi on travaille en psychiatrie. Quand on entend l'importance d'avoir ce respect, on entendait Pierre de respecter finalement les valeurs de chacun. Est-ce que le respect de la spiritualité du patient est-il enseigné ou abordé dans la formation infirmière en psychiatrie? Parce que de mémoire chez moi, ça remonte il y a plus de 20 ans. Donc ma mémoire me joue des rôles. Je sais qu'on a abordé ça, mais de manière quand même très, très évasive. Est-ce que les choses ont évolué, vous qui avez terminé il n'y a pas si longtemps?
Oui, alors déjà, nous, on a vraiment quand même comme base de relation Carl Rogers, qui est donc un psychologue qui a fondé l'approche centrée sur la personne. Et c'est en fait quelqu'un de très spirituel. Il vient d'une famille chrétienne et puis il a finalement bifurqué vers la psychologie. Mais il a vraiment cette approche justement de ressources. Et il dit que l'être humain est comme en fait un plant de pommes de terre dans une cave qui tendrait vraiment vers la lumière et qui grandirait et qui irait vers la fenêtre. Et que l'humain en fait a toujours cette graine en lui qui pousse vers la croissance et que si on lui donne un bon terreau et qu'il y a une certaine quand même sécurité qui peut s'acquérir aussi à l'âge adulte, il n'y a pas besoin d'avoir une enfance parfaite pour ça, et bien l'humain va aller vers sa croissance. Et je trouve que c'est très beau parce que ça évite de regarder la personne uniquement vers le diagnostic ou la problématique de pourquoi elle est à l'hôpital. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire aussi dans mon approche avec les patients.
Eh ben, merci en tout cas pour déjà ces bel échange qu'on a eu jusqu'à maintenant. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête pendant quelques secondes, quelques minutes, un intermède musical, le temps qu'on vous prépare, parce que là, vous nous avez parlé vraiment de toute cette expérience de ce matin, de votre regard par rapport au lien à la spiritualité, et je sais aussi que vous avez une voix formidable qui permet aussi d'être vecteur. On parlait d'écoute, mais c'est aussi comment on passe à travers peut-être le son, aussi une certaine forme de spiritualité. Donc, le temps que vous vous prépariez, on se retrouve dans quelques instants sur Pavillon Nomade.
Je ne veux pas.
de retour après ce superbe intermède musical, le temps que Marine se prépare. Marine, on vous laisse peut-être nous annoncer le nom et le choix de cette chanson.
Oui, donc ça s'appelle Senavali et c'est un chant bulgare. En fait, c'est l'histoire de trois bergers qui partent en montagne et qui se font en fait ensevelir par un éboulement dans la montagne et qui supplient la montagne de les libérer. Donc c'est vraiment une chanson de libération, libère-nous montagne, laisse-nous retourner au village et faire ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas fini de vivre.
Merci beaucoup, on vous écoute.
Senavali, Senavali, Char Planina, Aide Senavali, Senavali, Char Planina. Mi podvate tri ovčare, ajde mi podvate tri ovčare. Puštaj mene, puštaj mene, Šar planina, ajde puštaj mene, puštaj mene, Šar planina. Mi podvate tri ovčare, ajde mi podvate tri ovčare. Senavali, Šar planina, ajde Senavali. Senavali, Šar planina. Puštaj mene, Šar planina. Ajde, puštaj mene, Šar planina. Tebn debedan du, dadadadam dödn debedan. Senavali, Senavali, Šar planina, ajde Senavali, Senavali, Šar planina.
Bravo, bravo Marine, merci beaucoup pour cet instant magique au centre du parc de Malévo. Si vous voulez nous rejoindre, il est 15h bientôt 50, on est ensemble en direct jusqu'à 16h30. Pour fêter ce 15 mai, la Saint-Dithma, vous ne la connaissez peut-être pas encore et pourtant son histoire résonne encore aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé mentale. Elle est en effet la patronne des personnes atteintes de troubles psychiques, mais aussi des soignants, des familles et de toutes celles et ceux qui traversent des épreuves mentales et émotionnelles. Bonjour Gabriel,
merci,
merci de votre présence. Je rappelle, vous êtes responsable du quartier culturel de Malévo. Ma première question, mais qui était Dithma?
Alors... C'est un personnage, d'abord, on peut dire légendaire. Elle est née, ou elle serait née, au 8e siècle, c'est-à-dire dans les années 700, avant Charlemagne, pour vous donner une époque. Hein. Alors, elle serait née en Irlande, fille d'un roi et d'une reine. Très jeune, elle est orpheline. Et un jour, son père trouve qu'elle commence à ressembler de plus en plus à sa mère. Et son père veut la marier. Dithma fuit l'Irlande pour aller à Rille. C'est pour ça qu'on l'appelle, si vous regardez dans Wikipédia ou l'intelligence artificielle, on dit Saint-Dithma de Rille, Dinf de Rille, donc Rille dans les Flandres. Elle est la patronne de la ville de Rille dans les Flandres. Donc elle va à Rille et là, son père la retrouve, lui repose encore une fois la question des épousailles en disant... Si tu me maries, tu ne seras plus ma princesse, mais la reine. Elle refuse et elle se fait décapiter. C'est la peine capitale. Elle et la personne qui a fui l'Irlande avec elle, son confesseur qui s'appelait Cereberne. Alors, cette histoire du 7e ou du 8e siècle, elle a plein de variantes. Elle a donné l'histoire de Podane aussi. Mais maintenant, ça, c'est une légende. Mais qu'est-ce qui est authentique ? C'est qu'au XIIIe siècle, c'est-à-dire 500 ans plus tard, le pape apprend qu'il y a un culte à Ril et qu'il y a énormément de gens qui vont sur une tombe d'une Dipna et il veut faire une enquête. Et cette enquête, on l'a, on a le document. Alors ça, c'est fort de faire une enquête avec 500 ans de retard. Mais ce que dit ce document est très important pour le catholicisme et pour le travail en psychiatrie. C'est un, l'inceste est prohibé même dans les familles royales. Point 2, on a le droit de quitter sa famille pour créer une nouvelle lignée. Parce qu'au 7e siècle, les prêtres pouvaient se marier. Donc on peut quitter sa famille et changer de pays, s'installer ailleurs, il n'y a aucune raison. Donc c'est deux choses de liberté. Et c'est pour ça que par la suite, Sainte Dipna a été nommée patronne de la psychiatrie, des personnes en souffrance, mais aussi des personnes qui viennent l'aider. Elle est fêtée en règle générale le 15 mai.
Merci pour toutes ces informations riches en histoire. Mais ma question aussi, on la fête à Malévaux tous les 15 mai depuis déjà quelques années. Je crois qu'on est à la quelle édition ? On doit être à
c'est la 15e.
La 15e, mais qu'on fête toutes les années à Malévaux.
Mais parce que quand je suis venu ici travailler à Malévaux, je suis curieux, je rentre dans la chapelle et puis je vois à la gauche la chapelle Saint-Céréberne. Et puis à la droite, je vois Saint-Dipna. Puis je dis, mais qui est cette Dipna et puis qui est ce Céréberne? Donc j'ai fait une petite enquête et là, en cherchant un petit peu, je tombe sur un auteur qui s'appelle Bernard Fortum, qui a écrit, c'est un jésuite, docteur en philosophie, il a écrit un bouquin, Sainte Dipna, de la prohibition de l'inceste au placement familial. Ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est extraordinaire, vous pouvez croire au miracle ou pas. Par contre, Ril, dans les Flandres, c'est l'endroit en Europe où il y a le plus de placements familiaux de personnes avec une souffrance psychique. Il y a 1700 personnes qui sont accueillies dans cette ville qui, dans des placements familiaux. Et ça, je trouve, comme sociologue, comme historien, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, son livre s'appelle « De la prohibition de l'inceste au placement familial » à Ril.
Eh ben merci. Ça répond un peu à ma question, en tout cas un début de question, pourquoi elle est devenue une figure emblématique à Malévaux, hein ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque année, on a plaisir à se remémorer, à échanger et à donner ce temps à cet échange.
Alors, Sandy, vous savez, les catholiques utilisent beaucoup de figures de saints. Et puis, pour qu'on les reconnaisse, chaque saint a ses emblèmes. Par exemple, il y a deux Saint-Antoine. Alors, un Saint-Antoine, il a un cochon. C'est Saint-Antoine d'Égypte, parce qu'il était tenté. Lorsqu'il jeûnait, il était tenté par un cochon. Alors, on dit c'est Saint-Antoine et il a le cochon. Il n'y a pas à confondre avec l'autre Saint-Antoine qui tient Jésus dans ses bras. Donc, chacun a ses emblèmes. Et Sainte-Dipna, comme elle était tentée par le diable, comme elle est son père qui est complètement fou, comme elle est princesse, elle a une couronne, une épée et puis le diable. Et Chavas, qui a peint la fresque de l'église en 1930, lui, il n'aime pas représenter le diable. Et puis, il a dit oui, puis dans un hôpital psychiatrique, représenter le diable. Alors, il a mis dans ses bras un agneau. Voilà. Alors, un spécialiste de la représentation des saints m'a dit que Chavas ne mettait, dessinait jamais le diable. Et comme il a eu beaucoup de mandats dans les églises, alors, chaque fois, il doit dire c'est Saint-Bernard avec un chien et non pas le démon. Le 22 juin, l'après-midi, il y aura une conférence sur le rapport Sainte-Dipna, Chavas et la représentation du diable dans l'art de Chavas.
Où aura lieu cette conférence ? À la chapelle.
Alors, dimanche après-midi.
Pour tous ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas à réserver 22 juin. À quelle heure ?
Ça doit être vers 15h.
Vers 15h. En tout cas, on retrouvera toutes les informations sur le site du quartier culturel de Malévaux. Je crois que Cassandre, vous aviez une question à poser. Vous avez levé la main, on vous écoute.
En tout cas, une réaction. Je voulais vous remercier parce que je ne connaissais pas du tout la figure de Sainte Dipna. Et je comprends tout à fait pourquoi elle a sa place autant à Malévaux que dans un questionnement de parcours de guérison thérapeutique. Parce que si j'ai bien compris, cette figure représente un peu tout ce dont la société ne voulait pas, si j'ai bien entendu, et qu'elle a été rejetée. Et déjà, ça vient me toucher en un sens dans le rapport à la mère, le rapport à la femme. Parce que ça m'a fait tout de suite penser aux paroles d'une chanson qui dit je crois que c'est, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne, mais c'est une chienne qui a élevé Rome, et les putes comme moi portent les rêves des hommes. Et c'est rappeler que parfois celles qui savent le plus être maternantes, qui savent peut-être le plus donner de l'amour aux enfants qui ont manqué d'amour, c'est parfois ces femmes-là, ces femmes laissées. Et je voulais rajouter que c'est particulièrement parlant, parce qu'effectivement, je crois que nous sommes tous ici pour des raisons très différentes, mais que s'il y a un point qui nous rassemble, c'est certainement ce néant, ou en tout cas ces couleurs peut-être un peu dans les tons gris du sens de la famille et du sens de la sécurité. Et je trouve très intéressant ce que vous a partagé, les impulsions qui ont été possibles grâce à cette figure de sainte d'Hypna, parce que je crois qu'elle représente finalement peut-être plus la sainte patronne des familles d'accueil, j'aurais envie de dire, que des familles. Et j'ai l'impression, du peu de temps que je suis ici, on peut trouver à Malévo un certain sens de famille d'accueil temporaire, le temps de venir resécuriser l'enfant intérieur qui a manqué d'une mère, d'une sainte d'Hypna.
Merci Cassandre, merci beaucoup pour cet échange. Gabriel, oui, vous voulez rebondir?
Quand je disais, comme sociologue, ce qui est quand même extraordinaire, cette pensée, il y a une légende ou un mythe du Moyen-Âge, il y a ensuite un texte ou quelque chose qui date du XIIIe siècle, avant la Renaissance, et on peut dire que c'est 1000 ans d'accueil des personnes en souffrance. Une petite anecdote drôle, c'est qu'une fois, on reçoit un mail de quelqu'un qui nous écrit d'Irlande, et qui dit « Je travaille sur un hôpital psychiatrique en Irlande, et il s'appelle St. Davnet. » Et Davnet, c'est d'Hypna en irlandais, et en gaélique. Et ce monsieur est venu ici pour écrire un opéra sur cet hôpital psychiatrique qui, pendant la guerre, s'est déclaré soviète et république autonome de Davnet. Donc il y a un opéra qui a été fait, qui existe, sur St. Davnet Hospital.
Eh ben merci Gabriel pour cet échange, journée qui s'est déroulée avec différents événements. Je rappelle, on a eu ce matin la chance d'être accompagné en balade par Bertrand Poste, qui nous a permis de discuter sur tous ces chants d'oiseaux. On a eu la messe à 10h et on a aussi eu la buvette. Merci d'ailleurs aux soignants de l'UPA1 du Muguet pour ce moment de partage. Hein. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de monde. D'ailleurs, on a notre ami qui est présent, ça y est, j'ai un blanc, Eric Giraudet, qui est là, juste en très, très peu de Gabriel, juste encore quelques secondes avant de partir, juste en très peu de mots, comment s'est passé ces échanges et comment s'est passé ce moment-là?
Alors, ça a été un moment excellent, avec un peu de stress au départ, parce que le temps, ça se met en route, et puis que les patients bougent un peu des pavillons, il y avait les traitements, ces choses-là, et puis les soins d'hygiène le matin. Et ensuite, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de passages, surtout après la messe, parce que je crois que beaucoup de monde sont aussi allés assister à cette messe qui était étonnante, semble-t-il. Je voudrais remercier pas mal de personnes, mais en priorité Pierre de la cuisine, qui a vraiment fait des efforts monumentaux pour nous permettre de préparer les biscuits et toutes les amuse-gueules qu'on a pu mettre de côté pendant 2 semaines au congèle et pour servir tout le monde.
Mais alors, merci à Pierre Imèche et à tous ses collaborateurs. On a eu la suite, la chance d'avoir une conférence par Mathias Soir à l'écoute des entendeurs-entendeuses de voix. Et Gabriel, vous allez nous présenter tout à l'heure à la buvée, si je ne me trompe pas, de 17h à 17h30, les podcasts sur l'histoire de Malévo. Un teasing en quelques mots avant qu'on se quitte.
Alors oui, ce n'est pas des podcasts sur l'histoire de Malévo, c'est des podcasts sur l'histoire de Malévo pendant la guerre.
Wow, ça me l'est encore plus précis, parce on a que, hâte de découvrir.
Oui, parce que cet hôpital a dû fonctionner pendant la guerre. Il y a des réfugiés, il y a des juifs, il y a des fascistes, il y a tout ça. Et puis c'est la crise, et puis il faut faire fonctionner un hôpital. Et non seulement on accueille des patients, mais juste on construit, et on s'agrandit.
On a hâte de découvrir ça. Restez avec nous, à l'écoute, pour cette émission spéciale sous le signe de la compassion, l'écoute et la dignité. D'ailleurs, comme on est une équipe, on remercie déjà Julien Morand, qui a la technique, qui a pu nous trouver en quelques secondes la chanson dont vous parlez. Donc on va faire une petite intermède musicale avec cette fabuleuse chanson. À tout de suite.
Qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent, à lui offrir son cou d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette chaîne me doit d'aimer à culpa l'appel à marcher entre Raotour et Yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rênes des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rênes des hommes. Je ne veux plus supplier. Soleil de minuit, qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes insomnies, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit d'aimer à culpa la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Faire cracher leur venin debout. Et je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, il est exactement 16h05, encore en direct pendant une demi-heure, peut-être un peu plus si on a quelques minutes de retard, après ce titre fabuleux de Solane, le titre qui s'intitule Rome, sorti en 2025, si vous voulez aller découvrir l'artiste, voilà, vous avez de quoi trouver. Maintenant que nous avons fait connaissance avec Sandipna, ce qu'elle représente, il est temps de donner la parole à nos invités du service de l'aumônerie qui nous auront joints. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des collaboratrices, collaborateurs du service de l'aumônerie dans l'hôpital psychiatrique. Une présence discrète mais précieuse qui accompagne les personnes hospitalisées dans leur quête de sens, leurs doutes, leur foi ou simplement leur besoin d'écoute. Bonjour Christophe Pont, vous êtes responsable du service de l'aumônerie.
Oui, bonjour.
Et bonjour Christelle Savary, collaboratrice au service de l'aumônerie.
Bonjour.
Merci d'être présent dans cette fabuleuse journée qui est la commémoration à la Sainte-Dipna. On en a longuement parlé. C'est la première fois qu'on vous reçoit à Pavillon Nomade. On a l'occasion enfin de pouvoir se rencontrer et échanger. Et surtout, peut-être pour nous, les personnes qui nous écoutent en direct ou ici présents autour dans le parc, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle ici dans cet hôpital ?
Alors, notre rôle dans l'hôpital, ici à Malévo, mais comme sur les autres sites de l'hôpital du Valais, Sierre, Sion, Martigny et Saint-Amé, c'est un rôle de présence, d'écoute, d'accompagnement des personnes que nous rencontrons ou qui demandent un accompagnement. Et je dirais ce premier niveau, le premier niveau, c'est vraiment le niveau de la rencontre humaine, de découvrir voilà, quelqu'un, découvrir une histoire, d'accueillir parfois des épreuves, une souffrance, et puis de pouvoir faire un bout de chemin ensemble, j'ai envie de dire. Ça, c'est le premier aspect.
J'aimerais rajouter un élément qui n'est pas forcément très connu, mais l'aumônerie, elle est au service de tout le monde. Donc, pas seulement les patients, mais aussi le personnel, là. Parce que tout un chacun peut rencontrer des difficultés et avoir le besoin d'être écouté. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas toujours très connue, qu'on est à disposition de tout le monde.
Merci.
Et nous-mêmes, en tant qu'équipe, nous sommes soutenus. Nous avons une psychologue extérieure à l'institution qu'on peut rencontrer, qu'on peut solliciter, et puis que nous rencontrons en équipe chaque 2 mois pour des supervisions. Donc c'est vrai que, comme Christelle vient de dire, ben, on a également cette présence pour les membres du personnel soignant ou des personnes qui travaillent dans les institutions, pour les patients, les familles. Mais nous-mêmes, nous avons aussi besoin de soutien. Et un des soutiens aussi que nous avons, à part cette psychologue aussi qui nous écoute, qui nous guide, on a aussi bien sûr nos chapelles, la prière. On ne vient pas en notre nom, on est envoyé. Ça, c'est aussi un aspect important de notre mission. Je suis envoyé, je viens de la part de quelqu'un.
Merci. Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on fait appel à vous? Est-ce que c'est vous qui vous présentez? Comment ça se passe? Comment s'articule votre travail au sein même des unités ici à Malévo?
Alors, il y a les deux choses. Il y a à la fois des appels, des personnes qui vont nous solliciter. Et puis, il y a les visites spontanées. Ça, c'est valable sur tous les hôpitaux, que ce soit à Sion, à Sierre ou ici à Malévo. C'est la même chose. Il arrive qu'on passe. Et puis, on va dire bonjour, on se présente. Et puis, la personne, eh bien, va partager ou non, on va s'adapter. Et puis, il y a des personnes qui nous sollicitent et parce qu'ils connaissent le service. On a parfois des cartes de présentation ou ça, ou bien à travers les soignants. Ils nous appellent et ils nous sollicitent. Et ici, c'est encore un petit peu particulier parce que ben souvent, quand même, quand on vient dans les différentes unités, bien, c'est là qu'on va rencontrer telle ou telle personne dans les lieux de vie, dans les lieux communs. Voilà, en plus de certaines personnes qu'on connaît et puis qu'on peut accompagner. Alors, on a des rencontres très touchantes, je trouve, très souvent, ici sur le site de Malévo.
Alors, d'ailleurs, ça faisait partie d'une de mes questions que j'avais. Vous parlez de rencontres touchantes. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre mission en lien avec l'hôpital psychiatrique et les patients en souffrance ou ça?
Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est authenticité. C'est cash. Ce que les gens nous partagent, voilà, il y a une profondeur qui est là. Et je dirais qu'il y a une chose qu'on trouve ici, qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est l'évidence qu'il y a quelque chose au-dessus de nous de plus grand, pour la plupart des gens. Et ça, je trouve qu'on est privilégié de pouvoir rencontrer de telles personnes.
Merci. Marine, je ne sais pas si vous avez une question à poser. Je voyais.
Merci beaucoup. Ben, c'est vrai que c'était cette question qui me venait en premier. Mais aussi peut-être un exemple qui vous a illuminé ou qui vous a fait rire dans ce que vous avez traversé ici. Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose, tout en restant dans l'anonymat, bien sûr, mais.
Alors, en tout cas, je dirais que très souvent, on a un temps de célébration le mercredi à 4h30. Et Fiorella, Christelle, souvent, elles préparent une démarche symbolique. Il y a la chapelle, il y a des ateliers. Donc, on va écrire comme ça a été fait ce matin durant la messe, hein, où vous avez été invité. Personne qui était là à écrire un petit mot derrière la goutte. Souvent, il y a des partages. Hein, les célébrations, elles vont se construire avec la parole souvent, ou la participation des personnes qui sont là. Moi, je suis très touché souvent des partages qu'il y a là. Il y a peut-être d'autres exemples qui vont me venir, mais une fois, on avait dû réfléchir à l'amour, à qu'est-ce que ça signifiait aimer. Et puis, une des personnes m'avait dit que c'était difficile d'aimer. Et j'ai partagé un petit peu avec elle. C'est vrai que sur le moment, ça m'avait surpris. Puis je me disais, ben oui, aimer, ça m'avait fait un écho aussi pour ma vie, là où j'en étais, là, à ce moment-là, de cette célébration, de ce jour-là où on se réunissait. Puis je disais, oui, c'est parfois difficile d'aimer. Puis parfois, ça correspondait à ce cœur dur. Hein, ce cœur dur, parfois, j'ai le cœur qui est dur. Hein. On voit bien que Jésus, dans l'Évangile, il essaye sans cesse de rejoindre, d'ouvrir, de donner un cœur qui soit attentif, un cœur qui soit dans l'espérance, un cœur qui se confie, un cœur qui aime, un cœur qui ne domine pas, qui ne vient pas d'en haut pour écraser ni pour manipuler. Et puis cette personne-là, quand elle m'a dit ça, ça me disait, ben oui, c'est difficile d'aimer Et je me disais, mais oui, ben, je ressentais aussi ben, des fois ce cœur qui est dur. Et, bien, et c'est beau dans le sens où je me disais, mais justement, on est là pour avancer, puis pour essayer de l'ouvrir. Hein, j'ai parlé ensuite avec cette dame, et puis les uns, les autres, qu'on soit hospitalisés ou ici présents, on est là pour s'aider à s'ouvrir à la relation, à s'ouvrir à la confiance et à s'ouvrir à cet amour plus grand qui nous guide. Parce que j'ai besoin d'un amour plus grand pour aimer. Et ben, ça me ramenait, en tout cas dans ce moment-là, ça me ramenait vraiment à ma vie où je me disais, ben oui, ben, je me sens petit. Peut-être qu'il y aura d'autres exemples qui vont me venir, hein, parce qu'il y a tellement de rencontres qui sont touchantes et qui restent avec nous dans les journées, dans les semaines.
Merci Christophe Pont. Christelle Savary.
Alors moi, je me souviens de mon premier jour ici. J'avais rejoint pour la méditation à la chapelle en fin de méditation et ma collègue me présente comme nouvelle arrivante. Et puis, spontanément, eh ben, un patient qui était là, ils étaient en train de partager en fait un pain. Et il l'a presque ressorti de sa bouche pour voilà, me dire bienvenue et puis on partage. Et ça m'a tellement touchée, c'était à la fois drôle, c'est des situations qu'on n'aurait pas rencontrées au dehors et j'ai trouvé ça tellement fort et authentique en disant ben, bienvenue et je te partage ce que j'ai. Et vraiment, ça m'a touchée profondément en disant, ben voilà, chacun, si on avait ce réflexe-là de partager le peu qu'on a, mais de le faire de tout son cœur, et ben ça, le monde changerait.
Ben, j'imagine, c'est tellement symbolique en même temps, parce oui. que le pain, on sait aussi que le partage du pain et puis du symbolisme du corps, hein, c'est finalement ce pain oui. dans la bouche et ce corps qu'on échange, oui. qu'on donne. J'imagine que ça devait être effectivement très troublant, très touchant. On a à notre table Cassandre et Pierre qui sont là depuis tout au long du début de l'émission. Cassandre, vous voyez griffonner des choses sur vos papiers. Je ne sais pas si vous avez envie de poser une question, de partager peut-être un point de vue autour de notre échange.
Alors, pourquoi pas ? Je prends des notes parce que ça m'est agréable pour me concentrer, mais oui, pourquoi pas. Donc, éventuellement, oui, j'ai une question à la fois à vous, Jimmy, et au service de l'aumônerie, parce que quand je pense à l'image peut-être qu'on peut avoir des hôpitaux psychiatriques, ou allez-vous tout simplement, on pense, et là je pense pas du tout à des considérations désagréables ou stéréotypées, je pense aux dimensions positives, on pense à des individus qui viennent ici soigner leur psyché. Et souvent, il s'agit d'individus qui viennent soigner une psyché qui a été blessée par d'autres individus blessés. Et donc, peut-être mon premier élan, on va dire, de question, c'est, et finalement, vous avez commencé à y répondre, c'était quelle était la place donnée, que ce soit conceptuellement ou concrètement à Malevo, à la notion de guérison collective. Et ben, je vois qu'il y a forcément des pistes, puisqu'il y a cette spiritualité qui forcément à la fois vient toucher l'individu, mais la collectivité. Je pense que aussi la psyché, quand on apprend à, vous disiez, aimer sa psyché, on apprend à aimer la psyché de l'autre aussi. Mais je m'interrogeais sur la place éventuelle donnée aussi au corps. Dans des lieux comme des hôpitaux psychiatriques, dans le sens où quand on rencontre d'abord un corps, que ce soit par la stimulation visuelle, et si on est privé de ce sens, que ce soit par le tactile, que ce soit par la voix, on rencontre d'abord un corps. Et je crois profondément que si on nous apprend dès le plus jeune âge à aimer notre corps, on apprend aussi mieux à aimer le corps de l'autre et donc à le respecter et à ne pas le voir comme une ressource dont on peut se servir à son avantage. Et donc, j'ai l'impression que pour arriver à des guérisons qui ne soient pas juste des pansements sur des pansements sur des pansements sur des pansements d'âme blessée ou de psyché blessée, mais qui est vraiment des guérisons qui soient collectives, j'ai l'impression qu'il est essentiel de prendre la psyché, l'esprit, l'âme et aussi le corps. Et donc, je voulais vous demander quel était, en tant que service, j'imagine qu'on n'a pas du tout la même vision du corps quand on est en psychiatrie et quand on est en aumônerie, si ça se dit comme ça. Donc, je me demandais quelle était la place que vous attribuez à ça.
Alors, je ne sais pas si vous avez envie de répondre en premier. Christophe Pont.
Oui. Je vais parler donc ma collègue, notre collègue, hein, Fiorella, qui est pas là aujourd'hui, mais qui me disait souvent, il lui arrive que les patients ou les patientes la prennent dans les bras, enfin manifestent par le corps. Peut-être avec moi un petit peu moins, ça peut arriver, mais peut-être que elle, comme femme, et peut-être avec un petit peu une forme de maternité ou de sens comme ça. Mais elle disait aussi que parfois c'est il faut parfois aussi sentir un petit peu la limite, quoi. Elle doit un tout petit peu sentir comment il escalade, puis qu'elle soit à l'aise avec tout ça. Mais voilà, ça fait partie de l'accompagnement. Et puis je crois, en tout cas, le fait d'avoir ces moments d'atelier, hein, à la chapelle, on n'est pas dans... Quand on fait ces partages, on n'est pas dans simplement un texte qu'on lit, puis on réfléchit, etc. Le fait d'avoir une démarche... Hein, il y a ces fleurs qui s'ouvrent dans l'eau. Là, il y a eu un arbre avec. Il y a plusieurs démarches symboliques comme ça. Je trouve toujours important d'avoir cette médiation, quoi, un petit peu du symbole et où le corps s'exprime aussi, hein, parce qu'il y a souvent un déplacement. Il y a des choses qui vont se partager. Donc oui, notre approche, en tout cas au niveau spirituel, elle rejoint aussi ce corps. Ce corps, parfois, c'est une main qui est dans notre main, c'est ces souffrances qui s'expriment. On voit bien, hein, pour la personne, dans son visage, dans son corps. C'est extrêmement important qu'il y ait tout ça qui soit le plus intégré possible, quoi. C'est quelque chose qui est incarné. Enfin, oui.
Ouais. Vous avez raison, d'ailleurs, d'un point de vue peut-être de la part soignante. Hein. On parle souvent de cette sphère biopsychosociale. L'importance du corps est très importante. Dans la limite, dans la distance, on a des approches ici. Par exemple, si je prends l'exemple de la psychomotricité aussi, c'est comment finalement renouer le lien entre son corps et ses émotions. On a aussi une approche qu'on oublie. Hein. On l'a déjà cité au niveau de certaines émissions. Aujourd'hui, un des antidépresseurs qui fonctionne le mieux, après avoir mis celui qui va donner l'impulse de sortir de ce lit, c'est le sport. Donc le sport, on sait aujourd'hui, les études, elles le démontrent, c'est un des traitements les plus, stabilisateurs au niveau de la dépression. Et on a une approche ici à l'hôpital de Malévois avec une équipe de MTT, on appelle les médico-traitements thérapeutiques, où on a des physios qui sont là, qui proposent du fitness, qui proposent du pilates, qui proposent de la marche. Tout ça, des choses qui font partie de comment déjà... vous aviez dit tout à l'heure comment guérir son corps, c'est déjà apprendre à le connaître, c'est déjà apprendre à le respecter, et puis d'avoir des gens qui nous accompagnent finalement dans est-ce qu'on est trop dans l'effort, est-ce qu'on n'est pas assez, est-ce qu'on doit prendre le temps de faire les choses plus calmement de manière individuelle. Donc on a des soins individuels, on a aussi des traitements qui sont en lien avec les traitements pour les psychoses ou dans d'autres persévérations, on a des traitements de Pâques où là aussi on va avoir une approche psychocorporelle. On a tous ces vecteurs, mais peut-être vécus différemment et dans un sens et dans une distance différente. Finalement, vous parliez tout à l'heure, Christophe Pont, de finalement, on prend des gens, ou je crois, Christelle, plutôt, de prendre dans les mains, dans les bras. C'est vrai que nous aussi, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé de prendre quelqu'un dans mes bras, mais toujours de dire finalement, quel sens on va y donner. Nous, on n'est pas là pour effectivement se dire, on va faire des câlins, des choses comme ça, mais ça peut arriver, ou ne simplement mettre la main, si vous permettez, Pierre, pour expliquer la main, sur juste le temps d'un contact. Et puis, tout ça se fait du moment qu'on le fait avec sens, et qu'on y réfléchit, et qu'après on peut reprendre les raisons pour lesquelles on a eu peut-être une distance un petit peu plus, parce que avant tout c'est une rencontre d'humain à humain. Mais oui, on a cette approche aussi au niveau du corps.
Je voulais vous remercier parce que justement c'était important pour moi que ce soit dit à la radio, parce que quand j'ai annoncé à mes proches que j'avais demandé une hospitalisation ici à Malévaux, j'ai entendu beaucoup de peurs qui étaient basées sur des clichés, bien sûr la psychiatrie, mais En fait, on m'a beaucoup dit, j'espère qu'on ne va pas te mettre des camisoles chimiques, qu'on ne va pas taire ta cognition. Et ce n'était pas l'intuition que j'avais, mais effectivement, j'ai entendu beaucoup de peur à l'extérieur. Et puis, il y avait toujours cette image très stigmatisée des unités psychiatriques ou des hôpitaux psychiatriques de, en fait, on va taire ta tête et puis tu vas être enfermé, contenu, et on va blesser encore plus ton corps. Et au contraire, justement, depuis que je suis là, je ne peux que constater qu'on est invité à se guérir de la tête aux pieds en passant par ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur. Et je trouve, voilà, je trouvais que ce soit bien que ce soit dit.
Merci à vous, Cassandre, c'est juste. Hein. Pardon, Christelle.
Cette dimension du corps, elle est hyper importante pour nous, au service d'aumônerie aussi. On voit par exemple que tout ne peut pas être dit par la parole. Il y a énormément de choses qui se disent par le corps, mais qui reflètent quelque chose du cœur. On le voit notamment avec des personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs, voilà, où elles sont incapables de dire des paroles, mais elles le disent autrement. Et comme un simple geste, une présence, un regard, en fait, on sent qu'on est complètement connecté. C'est vraiment un cœur à cœur qui est là et on comprend l'autre. Mais ça ne se passe pas au niveau de la tête, ça se passe au niveau du cœur. Mais ça se passe réellement. Et ça, on le sent très bien. Et c'est aussi la magie de notre métier, je crois qu'on peut le dire. Quand on vit ces moments-là où on sent qu'on est reliés les uns les autres, dans une profonde vérité.
Ben merci Christelle. Pierre, je vois que vous avez pris le micro. On vous écoute.
Oui, j'ai trouvé très intéressant de parler donc, du corps, du cœur et de l'esprit, enfin de l'âme et de l'esprit, pardon. Et puis, c'est vrai que prendre soin de son âme passe beaucoup par le corps. Et puis, par exemple, commencer par des choses qui peuvent être mises en place facilement, comme faire un peu de sport ou une promenade, avant de chercher dans des choses plus complexes. Et puis dans ce sens-là, je me demandais qu'est-ce que l'aumônerie, par exemple, pouvait proposer au niveau du corps pour prendre soin de l'âme des personnes que l'aumônerie rencontre, s'il y a des choses qui sont prévues, organisées.
Alors ici, en tout cas, ça arrive qu'on fasse une marche ici avec la personne qu'on accompagne, de sortir, ça permet aussi de se confier autrement en étant là à côté de l'autre plutôt que d'être là en face de l'autre. Après, je dirais, le corps, il est toujours là. Si je prends dans les hôpitaux, après, il faut voir si la personne elle est à l'aise, mais souvent, on va tenir la main un petit moment, être assez proche. On a bien vu là même dans les situations du Covid, c'était une période très délicate où ça avait encore plus de poids de pouvoir être là et malgré parfois le masque et tout ce qu'on devait mettre comme protection, mais de pouvoir toucher et rejoindre l'autre, combien ça a un impact. C'est une manière de le reconnaître, c'est une manière de reconnaître sa dignité. Alors pour nous, c'est très présent, mais pour autant, on ne va pas en faire un dogme dans le sens où il s'agit toujours d'être attentif à comment l'autre perçoit ce toucher. On ne va pas pouvoir dire oui, il faut toucher la main, il faut prendre la main, parce que pour quelqu'un, peut-être, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être touchées, où ça va s'exprimer différemment. Hein, et ça peut s'exprimer dans le regard, ça peut s'exprimer de différentes manières. Donc, d'être attentif à ça. Parfois, ça peut être un petit massage, une petite détente comme ça qui peut être donnée au niveau d'une épaule ou comme ça. Mais tout est à vérifier. C'est l'autre qui guide, c'est l'autre qui va me montrer si pour lui, c'est important qu'il y ait, à un moment donné, ce toucher-là et je le sens. Et si je le propose ou comme ça, si je tends une main, je vois si la personne, elle la tend, si elle la garde ou bien si tout d'un coup, il y a un petit peu un malaise ou tout ça. Donc, c'est d'être attentif à la relation.
Merci Christophe Pont et Christelle, ça y est, je me perds dans les notes, Savary, merci. Merci d'avoir été présent pour cette émission. Je vois que ça suscite quand même beaucoup d'échanges, de discussions. Je rappelle pour toute personne qui nous écoute, en tout cas dans les pavillons, vous avez une petite plaquette où il y a les informations, les numéros de téléphone, où vous pouvez rentrer en contact et peut-être, si ça a initié des questionnements ou envie d'échanger avec autour de ce sujet, bah, vous pouvez les appeler, prendre rendez-vous, passer par le personnel soignant. Merci d'être venu échanger avec nous. Merci beaucoup. Et on se retrouvera de toute manière lors de balades ou d'échanges dans les différents pavillons de l'hôpital. Merci à vous.
Avec grand plaisir.
Avec joie, merci.
Merci. Marine, on arrive gentiment, alors on va devoir pousser les minutes, on arrive à notre fameuse...
rencontre de Marie-Claude, n'est-ce pas, Jimmy ? Tous les jeudis, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, Marie-Claude a une nouvelle fois rendez-vous avec Edith Vasquez. Edith est arrivée à Malévo en octobre 1972 pour suivre la formation d'infirmière en psychiatrie. Dans ce troisième épisode, elle nous raconte une journée de travail et l'évolution des soins.
Les rencontres de Marie-Claude.
Alors, la journée de travail commence à 6 heures et nous avions le rapport de la nuit. Et puis, en général, pour 30-35 patients, on était deux. Et on commençait à lever les patients, à les doucher ou à faire la toilette, et jusqu'à ce qu'il arrivait les autres à 7 heures. Après, ben, les autres soignants qui arrivaient devaient continuer le lever. Après le lever, il y avait le petit déjeuner, la prise de médicaments. Et après, il y avait les personnes qui étaient encore en crise qui devaient aller en ergothérapie pavillonnaire. Et puis les autres devaient aller soit dans les unités de ergo à l'extérieur, soit accompagnés, soit seuls. Et puis, il y avait aussi la colle. Il y avait aussi un menuisier qui faisait des travaux sur le bois. Donc, chaque personne avait dans son plan de soins un lieu où il devait passer la journée. Et normalement, toutes les personnes qui restaient au pavillon, ça s'appelait des pavillons à l'époque, devaient tous être occupés, soit avec... un infirmier qui faisait des activités avec lui, soit on allait en promenade, soit il y avait le bain plus tard, soit ils avaient rendez-vous avec le médecin.
Comment ont évolué les soins au fil du temps ?
Alors, les soins ont évolué dans une prise en soins beaucoup plus personnelle. Donc, chaque patient était unique. Et un des soins aussi qui a beaucoup marqué, c'est la reconnaissance des familles. Je me rappelle qu'au début, dans les années 70, on pensait que patients. Et peu à peu, la famille a pris toute son importance. En fait, le patient vivait avec son entourage. Et peu à peu, cette famille, on l'a considérée et on l'a écoutée. Et on faisait avec. Ensuite, dans les soins, ce qui a beaucoup évolué, quand il y a eu la prise en soins beaucoup plus individuelle, c'est la décentralisation du soin. C'est-à-dire que d'un lieu de vie à un lieu de crise, il a fallu créer à l'extérieur des besoins, des ambulatoires, des centres de jour. Il a fallu collaborer avec les maisons qui prenaient en hébergement les patients qui ne pouvaient pas retourner à la maison. Il y a eu toute cette délocalisation où on s'occupait de la crise, mais très rapidement, après, le patient retournait dans son milieu, soit à la maison, soit en institution, soit par un suivi. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément changé à partir des années, je dirais plus ou moins 80, qui a énormément changé. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif, parce que plus vous êtes hospitalisé longtemps, plus il est difficile de reprendre le travail, de reprendre votre vie quotidienne. Et là, cet lieu de vie, un lieu de crise, ça a été un grand, grand, grand changement.
Oui, et en vous écoutant, c'est la première fois que j'entends le rôle de la famille. C'est très important, la famille, dans une unité en soins psychiatriques, dans un hôpital en soins psychiatriques.
Énorme, énorme. Et là, je pense qu'en travaillant avec les médecins, avec les infirmiers, peu à peu, cette notion de famille a pris énormément d'importance et elles étaient enfin reconnues, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un patient qui souffre, la famille souffre aussi. Et cette reconnaissance de la famille a été vraiment capitale. Et par la suite, on a mis en place aussi, dans certaines pathologies, du soutien à certaines familles qui vivaient avec des pathologies très spécifiques, comme la schizophrénie, comme la manie. Maintenant, ça se développe de plus en plus, d'ailleurs. La prise en soin aussi des familles, de reconnaître leurs souffrances aussi.
Est-ce que vous avez constaté, au cours de votre carrière, une évolution des pathologies ?
Alors, je pense que le fait qu'il y ait des suivis, avant que la crise devienne vraiment très importante, si on peut hospitaliser le plus vite possible ou que le patient arrête son traitement, vu qu'il y a un suivi ambulatoire, on arrive quand même à aller rapidement intervenir. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un changement de société énorme et de ce fait, tout change à l'extérieur, hein, tout change. Le fait de cette nouvelle technologie, le fait de ce côté rural. Nous, on a la chance en Valais qu'on a encore beaucoup de villages, hein, où très vite, s'il y a quelque chose qui interpelle, on appelle soit la police, soit on appelle la famille. Donc, on peut intervenir assez rapidement. Mais je pense que le fait qu'il y ait un suivi et qu'il y ait une détection plus rapide, c'est beaucoup plus facile à enrayer la crise. Et puis, la venue aussi des médicaments qu'on a eus, hein, dans les neuroleptiques, des médicaments beaucoup plus perfectionnés. Mais c'est surtout une prise en charge beaucoup plus rapide. Et puis, dans le système, qu'il y ait des unités mobiles, je trouve ça extraordinaire. Qu'on puisse intervenir rapidement sur les lieux, je trouve ça très bien, très, très bien. Qu'il y ait aussi de l'ambulatoire, développer les ambulatoires, les centres de jour, pour éviter, parce qu'une hospitalisation, c'est toujours quelque chose qui marque autant le patient que les familles, et si on peut éviter d'aller jusqu'à l'hospitalisation, pour moi, c'est un côté très positif.
On remercie donc Marie-Claude et Edith pour cet éclairage sur l'évolution des soins, sur l'évolution aussi de la place de la famille dans les soins. C'est vrai qu'à Malévo, on aime bien quand les familles viennent rendre visite aux patients. C'est toujours ouvert pour ça. Et puis, on essaye aussi de faire des réseaux. Donc, n'hésitez pas aussi à proposer ça à vos médecins, à vos infirmiers pour qu'on puisse inclure au mieux vos familles dans la prise en soins. Et puis aussi, donc, il y a l'AVEP et Synapse Espoir. Je pense à ces deux associations qui prennent aussi en compte les familles, qui aident aussi à la compréhension des maladies psychiatriques et du coup au rétablissement des familles et des patients. Et la semaine prochaine, ça sera la suite de l'interview avec Edith Vasquez par Marie-Claude Cudry. On se réjouit déjà. Et vous pouvez aussi retrouver tous ces différents podcasts à la fin de toutes les interviews. Elles seront disponibles sur le site de pavillonnomade.ch.
Merci Marine. On aura peut-être l'occasion la semaine prochaine, même heure, alors même endroit, on verra selon le temps, si ce sera à la buvette, dans le parc ou dans notre studio, bah peut-être aborder ce thème de l'importance de la famille et de poursuivre avec ces discussions et ces opus dans les rencontres de Marie-Claude. Merci à vous d'avoir été à l'écoute pour cette émission spéciale dédiée à Sainte-Dipna, symbole de réconfort, de résistance et de dignité pour toutes les personnes touchées par la souffrance psychique. En cette journée du 15 mai, pensons aux personnes qui souffrent, à celles qui les accompagnent et à toutes les initiatives qui font avancer les choses, même à petits pas. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site pavillonnomade.ch. Je terminerai avec une citation anonyme. Ce n'est pas parce qu'une souffrance ne se voit pas qu'elle n'existe pas. Parfois, il suffit d'un regard bienveillant, d'une écoute pour que l'espoir renaisse. On s'y quitte là, maintenant, avec une chanson de R qui s'intitule « Ce matin-là ». Merci, Julien Morin, la technique. J'espère que vous avez passé, auditeurs, auditrices, un très bon moment. On se retrouve la semaine prochaine. The little
Thank you.